Enfin, les enjeux sociétaux, c'est la sécurisation des plages, parce que même si ce n'est pas l'ensemble de la population réunionnaise, et vraiment une petite partie de la population réunionnaise qui aime aller le week-end se baigner sur les plages typiques de la Réunion, comme Boucan-Canot et Roche-Noire, eh ben, en soi, c'est des activités qu'il faut protéger, parce que les gens veulent le faire, ils le font, qu'importe le danger. On peut le voir avec les attaques de ces dernières années, il y a une interdiction de pratiquer des activités nautiques et de faire de la baignade dans des endroits précis. Donc, Boucan-Canot, là, on peut voir le filet en fait qu'ils ont installé pour protéger les activités. Mais en dehors de ce filet, en dehors du lagon à La Réunion, et tous les endroits sont à vos risques et périls. Vous rentrez dans l'eau, c'est à vos risques et périls. Ce qui, en soi, est logique. Mais beaucoup de personnes, encore aujourd'hui, ont besoin d'un peu plus de protection. Et donc, il y a cet enjeu sociétal qui est de protéger les usagers de la mer.
Le filet, c'est important.
Les filets vont tout en bas, et c'est des filets non maillants, c'est-à-dire que dès qu'un animal rentre dedans, comme une barrière, il est repoussé. Il ne rentre pas dedans, il ne s'enroule pas dedans, il ne meurt pas. Sauf que ces filets ont coûté, je crois, presque 2 millions d'euros, et ils coûtent encore sacrément cher en termes de maintenance, d'entretien, et il y a eu une grosse polémique. Enfin, l'une des attaques de cette année, c'était cette année, je ne sais plus, Tanguy.
C'était cette année,
oui. Il y a eu une attaque aux Roches Noires où il y a aussi des filets. Et ça s'est passé dans les filets, l'attaque. Pas dans les filets, ça s'est passé dans l'espace protégé par les filets. Mais, à savoir, il y avait un trou de 2 mètres, de 3 mètres, hein,
c'est ça,
qui se trouvait dans les filets. Non, c'était à Boucan ou à Roche ?
C'était à Boucan.
C'était ici, donc. Et il y avait un trou de 3 mètres. Drapeau rouge requin levé, c'est-à-dire baignade interdite. Baignade, toute activité interdite. Mais il y avait de 9h jusqu'à 17h, l'heure où est arrivée l'attaque, et l'heure où le soleil commence à se coucher, donc propice aux attaques, une vingtaine de personnes qui surfaient. En ce qui concerne les programmes scientifiques, nous avons d'un côté Shark, de l'autre côté Cap Roquin. Il y en a plein d'autres, mais ceux-là sont vraiment les deux plus emblématiques, parce qu'ils représentent d'un côté la volonté des antipêches, et de l'autre côté la volonté des propêches. Shark, c'est un programme scientifique qui tente à établir un état initial des connaissances sur l'écologie et de l'habitat des deux espèces de requins côtiers sur la côte ouest de La Réunion, le requin tigre et le requin bulldog. Donc, grosso modo, c'est savoir qu'est-ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Tanguy l'a très bien présenté lors de notre exposé, et peut-être qu'avec un peu de chance, on pourra refaire ça sur le programme Shark, qui est un programme scientifique très intéressant. Il y a eu beaucoup d'investissements humains et scientifiques sur ce programme, et c'est l'un des premiers programmes à présenter quelque chose d'aussi complet sur le requin bulldog. Il y a eu donc 79 marquages sur 3 ans, 79 marquages acoustiques, 5 marques électroniques autodétachables et des observations sous-marines avec caméra qui ont été faites lors de ce programme. Je sais plus si ça va. Oui. Ah ben non, ça marche pas. C'est dommage.
Ouais. Qu'est-ce qui marche pas ?
Tout ça, mais je sais pas. C'est pas très grave. C'est pas très très important.
Marquage
acoustique, c'est un marquage qui se met sous la peau. Ça peut même être extérieur. En fait, c'est un marquage quand on passe à côté d'un récepteur. Ça envoie une onde. Ouf, ça. C'est le requin est passé par là. C'est pour ça. En fait, ils utilisaient les bouées de la réserve naturelle, enfin de la réserve marine. Dès que le requin passait, je sais plus. Je crois, c'est pas 500 mètres, un peu moins. Beaucoup moins même, ça envoyait un signal comme quoi le requin est passé par là. Donc à chaque fois qu'il passe, ça laisse un marqueur. C'est comme ça qu'ils arrivaient à savoir qu'est-ce qu'il faisait à quel moment. Les 5 autodétachables, on va y revenir, c'est très intéressant, mais c'est en fait un capteur satellite qui se posait sur la peau et qui se détachait au bout d'un certain temps. Je vais y revenir. Non. Mais c'est, je vais y revenir là-dessus. Ils ont découvert que le comportement migratoire des requins était principalement dans les transitions été-hiver, entre le mois de mars et de juin, ce qui représente une majorité des attaques que l'on a pu observer sur la côte ouest. Et les requins bulldogs changent d'habitation à un rythme jour-nuit, c'est-à-dire que l'occupation des côtes l'après-midi et en début de nuit, et après occupation plus au large en fin de nuit et le matin tôt. Donc en soi, on sait qu'il y a des moments où il est beaucoup plus risqué d'aller dans l'eau pour le bulldog, parce que la majorité des données de chaque ont été récoltées par rapport au requin bulldog. En termes de comportement de reproduction, de mars à août, l'accouplement des requins bulldogs semble s'effectuer sur des sites particuliers, dont Saint-Gilles et Étang du Dol, ce qui représente des endroits où on surfe beaucoup et on fait beaucoup d'activités nautiques. Et le comportement alimentaire, c'est une limitation des ressources disponibles qui peut entraîner une forte compétition entre les individus. Donc en soi, des choses qu'on avait hypothétisées et qui sont maintenant plutôt bien, pas théorisées, mais qui sont plutôt bien connues maintenant grâce à ce programme. Avant d'arriver à Caproca et pour répondre à ta question, le désavantage des récepteurs acoustiques, c'est qu'il faut qu'ils passent à côté d'un capteur. Donc en soi, c'est limité en termes d'espace. L'avantage des balises autodétachables, c'est qu'elles sont satellitaires. C'est donc dès que le requin s'avance, la balise se lâche, et dès qu'elle remonte, elle envoie le signal. Non, je dis n'importe quoi, elle se détache pour ne pas embêter l'animal. Mais en fait, on peut suivre avec l'image satellite le mouvement de l'animal. Et ça a permis de mettre en évidence que les requins bulldogs étaient capables de traverser de grandes étendues d'eau. Et qui tendrait à prouver que, là les analyses génétiques se font en ce moment, que les individus traversent les océans et vont de côte en côte. À la fin, oui.
On marque pas les animaux.
C'est compliqué parce que c'est déjà très compliqué de. Le programme Shark, ça a été un des premiers programmes à le faire et ça a été le gros avantage, c'est parce que c'est très compliqué d'étudier les requins. Déjà, c'est difficile d'étudier des animaux pareils et en plus, le requin bulldog, c'est encore plus compliqué. Le gros souci du programme au départ, c'était essayer d'arriver à trouver les requins et à les marquer. Ils ont fait venir Fred Dune, qui est un apnéiste professionnel, pour aller marquer les requins en les fléchant et pour aller les trouver sous l'eau. Parce qu'ils sont très craintifs des appâts, ils sont très craintifs des plongeurs en bouteille et il fallait envoyer quelqu'un qui était suffisamment pas inquiétant pour les approcher. Pour le programme, là, attendez, je terminerai aussi. On a aussi, il y a des malgaches du côté ouest de Madagascar des pêcheurs malgaches qui ont pêché un requin tigre qui avait été marqué dans le programme 4 requins. C'est-à-dire que le requin tigre est parti jusque sur la côte ouest malgache. Ce qui montre quelque chose qui était déjà connu et qui prouve que c'est aussi le cas dans cette zone que les requins tigres parcourent eux aussi de très longues distances. Et ils n'hésitent pas à se balader. Donc le programme Cap Requin, c'est un programme en deux phases. La phase 1 a été une expérimentation de plusieurs techniques de pêche. Et la phase 2, c'est une pêche soutenue sur un ensemble de zones autorisées. Programme fortement demandé par les pro-pêches, bien entendu, parce que fait en Afrique du Sud, fait en Australie, et que c'est une technique qui protège les usagers de la mer contre les attaques de requins. On reviendra sur tout ça un peu par la suite, mais pour continuer sur ce programme de pêche, il y a 81 requins ciblés, le tigre et le bulldog, qui ont été prélevés depuis le début de l'année 2016. Là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus... Je n'ai pas mis les données à jour, j'en suis navré. Mais ce chiffre a un peu augmenté parce que l'effort de pêche a été un peu plus soutenu. Sachant que ça, c'est ce qui est officiel, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui font des sorties en mer pour aller prélever du requin, eux, tout seuls, comme des grands. Donc on ne sait pas exactement le nombre de requins qui est prélevé, de requins tigres et de requins bulldogs qui sont prélevés. Mais officiellement, on en est aux alentours, on est beaucoup plus.
Ça se mange le requin là-bas ou c'est plutôt pour se manger
Alors, le requin tigre et le requin bulldog, moi j'ai jamais vraiment entendu des personnes qui... Maintenant, on reviendra dans la seconde partie par rapport à ça. Mais en soi, on mange des requins. Et c'est un gros souci qu'il y a eu par rapport aux requins de récif. Mais pour ce qui est du tigre et du bulldog, c'est déjà des animaux trop embêtants à pêcher et qui, en plus, là j'en parlerai pas ici, mais qui sont remplis de toxines, qu'on appelle des charcotoxines ou des métaux lourds, parce que comme ce sont des grands prédateurs, et toutes les saloperies finissent chez eux. Là, on n'est pas vraiment dans le même, on n'est plus vraiment dans le même type de pêche. C'est deux soucis différents qui peuvent être interconnectés, donc on ne connaît pas vraiment les interconnexions. Mais là, on touche vraiment à un domaine encore différent. Par contre, autour de l'île de la Réunion, il y a ce qu'on appelle des DCP, des dispositifs, je ne sais plus ce que c'est de pêche, des dispositifs de concentration de pêche, qui sont donc des faux récifs qui permettent d'appâter les poissons. Dans le cas présent, à la Réunion, c'est surtout de la biodiversité pélagique, donc de poissons d'eau profonde et de large, entre guillemets. Et il y a 250 DCP autour de l'île. Ce qui est quand même relativement gros. C'est un autre sujet sur lequel on pourrait discuter. Voilà, on peut discuter de plein de choses avec
le problème de la ciguatera.
La ciguatera, j'ai enlevé les diapos. Parce que la ciguatera, c'est une des charcotoxines dont on parlait.
Une toxine mentale qui est.
Peut-être qu'on pourra en reparler par la suite. Oui, non, mais on pourra en reparler après.
Il y en a à la
réunion. Si ça ne vous embête pas, on pourra en reparler après. Parce que c'est vraiment. Ça aussi, c'est un sujet, on peut en discuter des heures. Donc, le dispositif de pêche qui a été retenu lors de la phase 1, c'est les Smart Drumline, qui sont aussi smart que les smartphones. L'objectif, c'est qu'il y a un appât, une bouée, un câble de pêche posé au fond. Le requin, il vient, il mord, il tire dessus, il est coincé. La bouée envoie un signal sur les smartphones des pêcheurs accrédités par l'État. Ils viennent, ils vérifient si c'est un des trucs à prélever, donc requin bulldog, requin tigre, d'une taille suffisamment imposante pour être prélevé. Si c'est pas à prélever, il relâche. Si c'est à prélever, eh ben, il prélève.
Ça
je reviens. Oui, je reviendrai dans la seconde partie par rapport à cette notion de prélèvement. Mais ça fait partie du discours. Donc voici quelques exemples. En haut à gauche, ces deux individus-là sont des requins bulldog. Cet individu ici est un requin tigre. Et l'individu en haut à droite est un requin blanc. Et faites attention à l'individu sur le requin tigre, c'était pendant le programme Shark. C'est une photo qui a été prise pour le programme Shark, qui n'a pas été prise pour Cap Requin. Par contre, les deux autres, comme vous pouvez le voir, ils sont bien morts, donc c'est vraiment Cap Requin. Quand on regarde les captures ciblées de requin tigre et de bulldog, représentent en août 2015, parce que l'opacité du programme Cap Requin est quand même très intéressante, on reviendra dans la seconde partie toujours. En août 2015, 34% des prises sont des cibles, c'est-à-dire des requins tigres et des requins bulldogs suffisamment âgés et suffisamment grands pour être prélevés. C'est-à-dire que 66% des prises ne sont pas des poissons ciblés. Et dans ces prises, là vous pouvez le voir sur ce schéma, de ce que disent les gens du programme, bon, on verra par la suite, les raies Bastenag représente la majorité des prises, suivies de près par le requin tigre, puis le requin bulldog, ensuite la carbone grosse tête, les requins marteaux, etc., etc., etc. Et il y a un truc qui est très intéressant, c'est que comme vous pouvez voir, en plus, ce sont des prises vivantes, c'est-à-dire qu'ils arrivent, ils tirent l'animal, et puis ils déterminent comment est l'animal. Donc l'animal est soit vivant, soit mort, soit fatigué. Sachant que pour avoir fait de la pêche pendant très longtemps, un animal, enfin un poisson fatigué au bout de la ligne, c'est un poisson qui est mort. Parce que vous le relâchez ou pas, il va mourir. Et ils ont dû arrêter le programme à ce moment-là, parce qu'il y avait un taux de mortalité des requins marteaux, qui est une espèce menacée, si mes souvenirs sont bons, qui était très importante. Et le souci est qu'on se pose encore la question de savoir quel est le vrai taux de mortalité chez les requins marteaux et quel est le vrai nombre de prises chez les requins marteaux. Sachant que pour l'histoire du requin blanc, ils ont prélevé le requin blanc parce qu'ils pensaient que c'était un requin bulldog. Un requin bulldog bizarre, mais ils l'ont prélevé quand même. Et quand ils sont arrivés sur Terre et qu'ils se sont aperçus qu'en fait ils ont fait une connerie parce que c'est un animal qu'il ne faut surtout pas tuer, qui est interdit de tuer en fait, eh ben, ils ont fait « Ouais, désolé, mais il était fatigué. » Et en fait, la notion de fatigué est arrivée à ce moment-là. Ils l'ont prélevé parce qu'il était fatigué. Donc en fait, fatigué, c'est quand l'animal est agonisant, donc il est ni mort ni vivant.
C'est le chat de Schrödinger, ça.
C'est un peu l'idée, oui. Schrödinger 4. Mais Cap Requin, on va avoir le temps de revenir dessus. Pour terminer cette première partie... Pour terminer cette première partie, les causes avérées, le relief et le climat, le cycle biologique des requins, comme on a pu voir avec Shark, selon les moments où ils vont chasser ou se reproduire dans l'année, les comportements alimentaires, toujours pareil, des requins, quand est-ce qu'ils vont venir chasser près des côtes ou quand ils vont aller plus au large, le cycle chronologique, là qui est beaucoup plus en rapport avec les activités pratiquées par nous les êtres humains, donc grosso modo, faire du surf dans la journée... Pas trop de risques, faire du surf en début de matinée et en fin de journée, beaucoup de risques. La croissance démographique, on est un peu plus de 860 000, je crois, là en ce moment à La Réunion, et en 2030, on sera presque 1 million sur l'île, avec la majorité des gens concentrés sur les côtes, et principalement la côte ouest, qui est la côte la plus ensoleillée de La Réunion, avec les plages, avec l'accessibilité à la mer, l'accessibilité à la montagne, qui est favorisée. Et enfin, la protection alimentaire. ce qui pour moi n'est pas particulièrement véridique et à vérifier, c'est vient du fait que dans les années, en 1999, un arrêté de pêche a été promulgué à La Réunion, interdisant de pêcher certaines espèces de poissons, dont le requin tigre et le requin bulldog, par rapport à la ciguatera. Parce qu'il y a eu des cas reconnus et étudiés, mortels, à Madagascar, de villages de pêcheurs, où il y a eu beaucoup de morts à cause des intoxications à la ciguatoxine. Et à La Réunion, jusqu'à maintenant, et c'est passé à Mayotte l'année dernière, il n'est pas interdit de pêcher et de manger ces animaux, il est interdit de les commercialiser. À vos risques et périls, donc. Mais pas ceux des autres. Ça, c'est la seconde partie, et donc, pour la première partie, on est à peu près dans les temps. J'écouterai donc vos questions, si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on vient de voir sur cette première partie. Je saurais pas le dire, mais une chose est sûre, c'est que sur l'espace de protection des filets, ce n'est pas suffisamment grand pour qu'on ne puisse pas y apercevoir un animal de 3-4 mètres, de 2-4 mètres. Il y a utilisation de drones, mais c'est très compliqué de surveiller les requins tigres et les requins bulldogs avec des drones parce que leur couleur de peau est adaptée pour être blanc en dessous et gris au-dessus. Ce qui fait qu'au-dessus, on voit juste des trucs gris. Il faut vraiment être sous l'eau pour bien les voir.
Un groupe de nageurs.
Il y a. Je ne saurais vraiment pas dire ce qu'ils font. Ce qui est sûr, c'est que c'est une entreprise. Je ne sais pas si on peut vraiment dire sérieuse, vu tous les soucis qu'il y a eu avec l'entreprise. C'est la gestion économique et la gestion tout court laisse vraiment à désirer la région.
Tu vas en parler peut-être, pourquoi il y en a qu'il ne faut pas éliminer, d'autres qu'il faut protéger, d'autres qu'il faut faire sérieux et
Ça rejoint beaucoup ce qu'on disait hier avec sur le chômage, le marché du travail, ça va être une notion de comment valoriser l'espace et la ressource que nous avons. Nous avons c'est des jolies côtes, c'est pas comme Maurice, c'est pas comme les Seychelles, la Réunion c'est surtout une montagne au milieu de l'océan. Mais c'est vrai qu'il y a des plages d'un point de vue surf qui sont très intéressantes parce qu'il y a la droite à Saint-Leu, qui est une vague connue à l'international, où il y avait une compétition internationale qui était organisée là-bas. Et donc en termes de valorisation du point de vue de surf, il y a de quoi valoriser. Le gros souci, et c'est le souci qu'il y avait avec le projet Ciguatera, qui est devenu le projet Valoroquin par la suite, c'est qu'on ne cherche pas à valoriser la côte de par sa biodiversité, mais plutôt de par ce qu'elle peut apporter d'un point de vue économique. Et dans le cas des requins, le programme Ciguatera avait pour objectif de valoriser les requins morts. En fait, c'était pour prouver que la Ciguatera n'était pas si dangereuse que ça et trouver de nouvelles opportunités commerciales à la commercialisation des requins. Autre que vivant. Parce qu'on pourrait très bien organiser des safaris pour aller voir les requins, pour comprendre leur écologie. Même si c'est très compliqué à faire, vu que ce sont des animaux craintifs. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais grosso modo, c'est... Encore une fois, ce n'est pas des questions qui sont d'actualité, parce que comme on le verra dans la seconde partie, il y a déjà bien d'autres problèmes à régler. Ne serait-ce que le fait de se mettre d'accord, de se mettre autour d'une table.
Mondialement, ils sont capables de faire le ménage dans l'océan. Quel est l'intérêt d'un prédateur de trop ou pas assez
Ben, c'est comme n'importe quel prédateur. Il y a une étude qui a été très intéressante sur les loups de je ne sais plus quelle réserve américaine, je crois que c'est la réserve de Yellowstone. La réintroduction des loups à Yellowstone a été quelque chose de fortement bénéfique parce que les rennes avaient tendance à un peu trop à faire ce qu'ils voulaient parce qu'ils avaient
les cerfs.
Les cerfs. Et la réintroduction du loup, on aurait pu mandater des chasseurs pour aller tuer ces cerfs. Mais en soi, c'est très compliqué parce qu'il faut donc faire des. Il faut aller chercher les cerfs, il faut savoir qu'est-ce qu'ils font exactement, quand exactement, qui il faut buter. C'était très compliqué. L'avantage des loups, c'est que les loups, ils s'attaquent aux plus faibles, aux malades, aux vieux. Donc en soi, ils permettent de bien réguler la population de cerfs sans la mettre à mal, et donc de réguler la biodiversité. Et les requins, c'est exactement pareil. Les requins, la plupart du temps, et c'est le cas des requins à La Réunion, ils vont pas s'attaquer à des proies vigoureuses et avec plein d'énergie qui peuvent se défendre. la plupart du temps, c'est des grosses opportunistes. Ils vont plutôt aller vers les proies qui se disent « Ah, celle-ci, elle ne va pas trop se débattre. »
Alors, est-ce qu'on peut dire que les requins régulent la population des surfeurs?
Oui, oui. J'avais fait un dessin là-dessus, comme quoi les requins régulaient les surfeurs. Ils avaient fait Cap Surfeur. Mais oui, c'est...
Une compétition entre prédateurs, attaque les plus faibles.
Ouais, mais j'ai l'impression que les requins sont quand même beaucoup plus intelligents, mais c'est pas... Ça, c'est mon point de vue. Oui. Et donc, Alain, ta question, c'est...
Oui, j'ai un petit exemple. Au Sicorium, j'ai travaillé comme menuisier au Sicorium du Gros du Roi. Et j'ai posé la question pourquoi il y a des requins dans le grand aquarium et des poissons. Et la fille m'a répondu mais ils s'attaquent aux poissons malades ou vieux, qui ne sont pas bien. Ils s'attaquent.
Attends.
Ils s'attaquent pas aux
poissons.
Ils
ont
peur des poissons.
Mais pas s'attaquer à des éléments en bonne santé, mais ça va être. Ils préféreront toujours s'attaquer à l'animal qui présente le moins de danger pour eux.
Et j'avais une question justement, comment un requin. Alors je connais pas l'écologie marine, mais il y a des déserts. Marins. Et comment un requin peut-il passer de la Réunion au Madagascar traverser un désert?
Ah, mais ça, c'est l'avantage d'un programme comme Shark qui met en évidence les deux choses. Parce qu'il n'y a pas d'information, il n'y a pas ce qu'il faut pour suivre ce genre de choses. Ça met en avant notre manque de connaissances sur l'écologie et le comportement des requins. Et ça met en avant tout le risque de menace qui pèse sur ces animaux qui sont des animaux essentiels à la biodiversité. Et tout le souci est là, c'est que, on va le voir là, c'est vu l'aversion que beaucoup de personnes ont pour ces animaux, c'est pas de mal à veille qu'on va savoir plus sur ces animaux. Surtout que c'est de l'argent jeté par les fenêtres parce qu'en soi on s'en fout de savoir qu'est-ce qu'ils font les requins. D'autres questions ?
Parfait.
Donc, bah oui, là, je suis dans les temps.
Ça va.
Un débat fermé. Ça, quand ce dessin, j'avais fait ce dessin à un moment donné parce que l'une des approches de l'association Océan Prévention Réunion est de parler au nom des Réunionnais. Quand je vous parlais du sondage tout à l'heure, avec 83% des Réunionnais qui n'étaient pas particulièrement pour que l'on s'intéresse majoritairement à la crise requin. Océan Prévention, Réunion et les autres associations ProPêche, comme on a pu voir, bah, ils parlent au nom de l'ensemble des Réunionnais. Et ce dessin, c'était en fait, c'est le logo que vous voyez avec une sorte de montagne et les éclairs qui partent comme ça, c'est le drapeau réunionnais. Et juste derrière, c'est le logo de l'association Océan Prévention, Réunion. Le souci est que il n'y a pas vraiment beaucoup de place pour un débat sain, constructif, critique et encore moins pour la science. Actuellement dans la crise requin, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de drames humains qui amènent à beaucoup d'émotions, beaucoup de sensationnalisme, beaucoup de démagogie, et il y a tout ce tissu très malsain dans l'espace médiatique qui fait que, par rapport à la question qu'on posait sur comprendre un peu mieux les requins, n'est pas d'actualité. Enfin, comprendre les requins n'est pas d'actualité à la Réunion, parce que déjà on n'arrive pas à se comprendre nous-mêmes. Donc, un débat fermé. Ça, je m'appuie sur les notions que Tanguy avait exposées lors de notre dernière présentation. Combien de requins sont-ils impliqués dans les attaques? Théorie de la probabilité d'attaque homogène ou hétérogène, parallèle avec le nom de Patterson. L'augmentation de la compétition entre les individus lors de l'arrêt de la pêche aux requins, de la commercialisation de la pêche de requins, taux de reproduction théorique et réel. Et faut-il ou non la réautoriser en parlant de la pêche? Si oui, avec quelle méthode? Pêcher les requins à cause de la surpêche? Est-ce que c'est vraiment enviable? Au dépend de la réserve marine. Toutes ces questions sont des questions plus que d'actualité dans le débat de la crise requin, parce que beaucoup de choses sont dites sur ces aspects et peu de choses sont certifiées, mais vraiment très peu. Et il y a tout un tissu argumentaire autour de ces questions qui ne sont pas qui tiennent soit du faux, soit de la désinformation, soit de la réinformation, soit de l'intimidation. Et le premier point, et là-dessus justement, c'est l'intimidation, si ça veut bien passer à la suite. Ah non, c'est vrai, il y a d'abord cette petite vidéo.
À propos de la réserve, donc il y a deux populations, il y a la population des surfeurs, on sait qu'elle a augmenté, parce que, comme je disais, j'étais là, il n'y avait pas encore autant de surfeurs. Et est-ce qu'on sait si la population de requins, elle, a augmenté? Et après, l'argument qui serait de dire qu'elle aurait augmenté du fait de la réserve naturelle, c'est un corollaire.
Tu verras pas.
Mais a-t-elle augmenté cette population de requins?
Tu vas le voir, tu auras ta réponse pas à suivre. Je sais pas s'il y a le son. Il n'y a pas le son.
Du son, tu l'auras. Du son, tu l'auras.
Il y a du son, logiquement. Après, c'est pas très important, c'est juste la musique, mais elle est bien. Vous l'aurez compris, cette vidéo est légèrement orientée. Elle a été faite par un collectif réunionnais pour la résolution de la crise requin. En fait, elle a été faite majoritairement par les tenants des associations de prévention, donc à comprendre de régulation de pêche par la pêche. Et donc, il y a des informations.
Moi, je comprends pas, des pro-pêches.
Des pro-pêches, ah,
d'accord.
Et donc, grosso modo, il y a des informations qui sont vraies là-dedans. Le risque qui est beaucoup plus important qu'en Australie, il est vrai. Après, il faut le relativiser. En Australie, il y a des côtes et des côtes et des côtes et des côtes. À La Réunion, il y a 3-4 plages où on peut surfer. On peut bien surfer. Et avec beaucoup de personnes qui surfent en même temps, au même endroit, avec des comportements pas du tout adaptés. Donc, il y a des informations vraies, mais présentées d'une manière particulière, et des informations fausses, qu'on sait fausses par rapport à la réserve marine. Un des points intéressants, c'est qu'on a mis une réserve marine dans une zone balnéaire. Sauf qu'on a surtout mis une zone balnéaire dans une zone naturelle. Donc, ça, on a très tendance à l'oublier. Enfin, les pro-pêches ont très tendance à l'oublier par biais de confirmation. Donc, l'intimidation. Ce monsieur est Marc Soria, qui était l'ancien directeur de l'IRD à La Réunion et qui est co-auteur du programme Shark avec Antonin Blaison. C'est un mec super sympa en plus. Mais le problème, c'est qu'il travaille pour l'IRD, et l'IRD, c'est des scientifiques. Et les scientifiques, ils sont avides de subventions, donc c'est des salauds. C'est la rhétorique. C'est la rhétorique que les professeurs. Je tiens à dire tout de suite, je ne vais pas juste m'axer sur les pro-pêches, il y aura aussi sur les écologistes. Je vais aussi parler de la désinformation du côté écologiste. C'est juste que le nombre de désinformations et de réinformations du côté pro-pêche est quand même beaucoup plus conséquent que du côté écologiste qui existe. Ce photomontage a été fait par un Brésilien, parce qu'au Brésil, ils ont à peu près le même souci d'attaque du côté de Recife, avec des requins bulldogs. Ils ont aussi des études scientifiques et pareil qu'à La Réunion, le dialogue entre les activités nautiques et les chercheurs est très tendu. Un autre exemple, les insultes continuent sur les réseaux sociaux. Emmanuel Séraphin a annoncé hier qu'il envisage de donner une suite judiciaire aux injures proférées à son encontre par Patrick Florès en conseil municipal et ensuite sur les réseaux sociaux. Lors des dernières municipales à La Réunion, les Propêches ont décidé sur les communes, sur les municipalités touchées par la crise requin, de proposer des candidats comme conseillers municipaux. Patrick Florès est conseiller municipal chargé au sport et à la mairie de Saint-Paul. Et Patrick Florès est le père de Jérémy Florès, le champion réunionnais dont je parlais tout à l'heure. Il est aussi président, il est aussi représentant, donc une sorte de président de la Fédération française de surf à La Réunion, et il est entraîneur international pour la Fédération française de surf. Il amène très souvent les jeunes réunionnais faire du surf, s'entraîner en Afrique du Sud. Donc déjà, à partir de ce moment-là, on peut voir que même d'un point de vue institutionnel, l'intimidation peut se faire au sein même des instances publiques. Et c'est très dommageable. Et ça continue sur Internet. Et en parlant d'Internet, ça c'est des trucs assez rigolos qu'on peut trouver de temps à autre. J'ai préféré me prendre moi, mais il y a plein d'autres exemples, comme Marc Soria, comme François Sarano, plein d'autres personnes qui ont le droit à des photomontages, à des injures, à des insultes, des intimidations, des menaces, etc. etc. Et j'ai préféré me prendre moi, parce qu'au moins comme ça, j'avais pas de soucis avec le droit à l'image des autres personnes. Là, c'était mutilé, t'as vu ça ?
Oui.
Comment ?
Oui, chante-le.
Utilé, t'as pas fait. Je ne danserai plus jamais. Voilà. Donc, j'ai mis celui-ci parce que je le trouve rigolo en soi. Il est drôle. Et à côté, c'est Renaud Daron, qui est un propêche bien actif. Il écrit beaucoup d'articles. On pourrait dire que c'est un intellectuel en soi, parce que je ne sais plus ce qu'il fait, mais c'est quelqu'un qui est quand même... bien instruit, qui est pas particulièrement bête en plus, c'est vraiment quelqu'un de très intelligent, mais alors sur les réseaux sociaux, ça devient un troll innommable. Il envoie des photos de personnes mutilées par des attaques de requins, il est hyper agressif, comme vous pouvez le voir là.
Mais qui est cette petite châtaigne velue ?
Oui, petite châtaigne velue, c'est mon surnom, parce que Paul Châtaigne Velé, petite châtaigne velue. Voilà. Voilà.
On a dit qu'il s'agissait d'une danseuse de charme,
de pole dance.
De pole dance à domicile, qui vit à Montpellier. Voilà. Il paraît que son hobby, c'est la squale au chili morbide.
Oui, parce que moi, je suis pour que les requins mangent les gens.
Ouais. Et qu'à chaque attaque de requin, elle se met à, j'arrive pas à lire, sécréter d'hormones
chelou. Ça vous dit quelque chose ? Oui, parce que une fois, j'ai sans faire esprit posté une capture d'écran de mon ordinateur sur la page sur laquelle j'ai commenté la crise requin, avec bien entendu mes onglets internet et certains fichiers qui se trouvaient sur mon bureau ou sur ma page Facebook. Donc je suis autiste parce que je suis des groupes en lien avec l'autisme, je suis PD parce que je fais de la danse. Oui, la misogynie, l'homophobie, enfin tout ce qui n'est pas comme eux. Oui, c'est très c'est classique malheureusement et c'est très con. Alors. Hein ? Je fais de la pole dance.
Direction ouest de Nice, on voit un acte de vandalisme. Des cocktails de feu ont été envoyés sur la réserve marine ce matin. Des injures écrites à la bombe habillent désormais les murs de la structure. Une colère exprimée après la mort du bodyboarder à Saint-André. La réserve marine prise pour cible car certains la jugent responsable de la crise requin. Jean-Marc Seguin.
Sur ces images filmées par les agents de la réserve, 5 cocktails Molotov de fabrication artisanale lancés dans la nuit dans l'enceinte de la réserve, des bouteilles de vin remplies d'essence. Pas ou peu de dégâts, des tags à l'extérieur. Ce matin, les gendarmes de l'identification criminelle procédaient aux premières investigations. En tout cas, nouvel émoi pour les 15 employés de la structure après des événements similaires survenus il y a 2 ans après la mort du petit Elio.
L'équipe est dépitée, triste, et on trouve tout cela évidemment bien évidemment injuste. C'est un acte qu'il faut le rappeler inqualifiable. Toute mort aussi dramatique soit-elle. Ne justifie pas les comportements inappropriés et de destruction, voilà, qu'il faut rappeler à chacun d'être dans le respect. Puis je pense aussi que chacun doit se poser les vraies questions. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire ce matin. C'est surtout que l'équipe, il ne faut pas confondre non plus les rôles de chacun, chacun ses responsabilités. Nous ne sommes que l'équipe gestionnaire, nous ne décidons de rien. Donc c'est notre outil de travail, ce sont nos locaux, donc ce geste est tout simplement inqualifiable. Voilà, et aucun acte ne le justifie.
Pas besoin d'écrire l'absurdité de la chose. Permettez-moi, je vais recontextualiser pour celle-ci. Ça s'est passé donc en avril, le 25 avril 2015, c'était après la mort du jeune Elio, comme la dame expliquait, qui s'est fait attaquer par un requin à la pointe des aigrettes le même mois, en début de mois. Et la question de la re-réglementation de la réserve marine était revenue sur la table et était bien présente. Parce que, voilà, c'est à cause de la réserve marine. C'est à cause de la réserve marine. Voilà, on ne pourra pas régler la crise requin sans réserve marine. Ça m'a fait plaisir, merci beaucoup. Mais ça, ils veulent pas lâcher. Les pro-pêches ne veulent pas lâcher cette question de réserve marine. Pour eux, c'est obligatoirement la réserve marine qui est responsable des attaques. Ils peuvent pas le prouver. Ça a été improuvé. En fait, ça a été désapprouvé. Pas désapprouvé, comment je pourrais dire ça. Ça a été prouvé que c'était faux.
Invalidé.
Merci, ça a été invalidé. Mais ils restent fixés là-dessus. Et cette manifestation, qui s'appelle Préserve notre récif, a été faite par une association écologiste qu'on a vue tout à l'heure qui vit Océane, qui avait pour but de faire une chaîne humaine autour du lagon pour dire ne touchez pas à la réserve marine parce que le lagon il en a quand même un peu besoin. Besoin d'aller plus loin, ça continue un peu dans le même esprit. Elle a été perturbée par des représentantes et représentants, surtout représentantes de l'association Protéger nos enfants, des associations Protéger nos enfants et Rente à nous la mer, Rente à nous la Réunion, qui en réunion veut dire Rendez-nous la mer, Rendez-nous la Réunion. Et grosso modo, ils sont venus perturber cette manifestation et absolument toutes les manifestations qui sont faites pour la réserve marine ou contre la pêche sont perturbées à peu près de la même manière. Un scientifique français connu des requins qui s'appelle François Sarano était venu faire une présentation de son projet Grand Blanc, je ne sais plus, qui est un projet de suivi des requins blancs, soit en Méditerranée, soit en Atlantique, je ne saurais pas le dire. Il était venu faire une conférence, il a été perturbé pendant sa conférence par un collectif de pêcheurs qui était venu le traiter de monstre, de connard, etc., etc. C'est très présent l'intimidation, comme on peut le voir. Donc, le souci, on parlait par rapport aux connaissances des requins à la Réunion, tant que ça continuera, ça sera impossible de proposer ne serait-ce qu'une étude qui suive. Shark 1, ça a déjà été très compliqué de mettre en place, il devait y avoir Shark 2 pour approfondir les connaissances sur ces animaux, il ne verra sûrement pas le jour. Et ça, c'est très dommage parce qu'en termes de rayonnance internationale, c'est un programme qui a eu un gros impact. La désinformation. Et là, on touche le nœud de la guerre, c'est la réserve marine. La réserve marine, ça centralise absolument toutes les tensions. Auparavant, il y avait une ferme aquacole qui se trouvait en baie de Saint-Paul. Et qui, comme la réserve marine, avait eu le droit à toutes ces intimidations, à ces provocations, et a été obligée de fermer à force. Parce que la ferme aquacole était en partie responsable de faire venir les requins. Spoiler alert, pas du tout. Donc ils ont juste détruit de l'emploi, pas grand-chose. Sauf qu'il reste la réserve marine, et la réserve marine, c'est vraiment pas des gens bien, parce que la réserve marine, ils veulent protéger les requins. On n'a pas le droit d'aller pêcher les requins dans la réserve marine. Ce qui est complètement faux, la réserve marine, il y a à peu près, je ne sais plus combien exactement, 80% de la réserve où on peut pêcher, et où les dispositifs de pêche de caproquins sont placés. 15% où la pêche est limitée, mais où on peut quand même mettre les dispositifs de caproquins, et 5% intouchables. Vraiment 5% où il n'y a aucune activité humaine, à part celle des scientifiques pour faire le relevé de la biodiversité, qui sont autorisés dans ces 5%. Mais ces 5% font bien chier les gens de Cap-Requin, parce que c'est 5% de trop. Et parce qu'elles se trouvent justement en face de certains spots, tels que le Concanote, et je ne sais plus de quel autre, c'est les zones rouges. Bon, on ne le voit pas très bien sur cette image.
C'est ces petites zones rouges-là. Ils se trouvent devant les spots de surf. Sauf que les spots de surf, la plupart du temps, se trouvent en face des grandes villes, enfin des grands villages, des grandes villes, et à côté des ports. Donc c'est des endroits où il faut vraiment protéger.
Est-ce que ça correspond à des zones de reproduction? Effectivement, ça, il faut le...
Il y a Saint-Gilles et Étancelé. Il y a Saint-Gilles et Étancelé, mais en soi, il y a toute la partie ouest, nord et sud de l'île où on ne sait pas trop parce que la majorité des données ont été récoltées par des récepteurs, par les récepteurs qui étaient majoritairement sur la zone ouest. Il y a vraiment beaucoup trop d'incertitudes. Toujours dans la désinformation, ça c'est un dessin qui était sorti en 2012, dans mes souvenirs. Donc comme vous pouvez voir, en 2015, il devait y avoir que des requins dans l'eau. Ce n'est pas trop le cas. Toujours la même notion de surpopulation de requins-tigres et de requins-bulldogs. Ça, c'est aussi un des argumentaires qui ressort le plus souvent. Les requins-tigres et les requins-bulldogs sont en surpopulation autour de l'île. Personnellement, il n'y a pas d'études qui ont été menées pour savoir si c'est réellement le cas, mais d'un point de vue purement écologique, c'est juste pas possible. Ce sont des prédateurs. En soi, les prédateurs sont régulés par le nombre de proies disponibles. Donc... dire qu'il y a une surpopulation de requins-tigres et requins-bulldogs insinuerait qu'il y a une surpopulation à peu près équivalente de proies. Sauf que ça a été, on le sait, on a de moins en moins de poissons côtiers autour de l'île. Donc c'est juste, oui, voilà,
c'est pour ça qu'ils mangent
les surfeurs. Ils doivent mourir de faim, les pauvres, vu le nombre d'attaques. Oui, voilà, en plus, il y a quasiment, vu le nombre d'attaques, il n'y en a pas assez. Toujours dans des informations, là les mamans en colère se mouillent, là c'est assez. Tout ça c'est très récent. Alors les mamans en colère se mouillent, c'est durement frappé par la perte de leurs enfants. Non. Des femmes, une trentaine, ont lancé hier dans le lagon de l'Ermitage un rassemblement symbolique pour clamer leur colère face à une crise qui s'éternise. Tout démagogie, bien entendu, c'est mes enfants, ils sont en danger, vous faites rien pour les protéger. Sauf que ce sont des personnes, là j'en reconnais certaines, je sais que c'est des gens qui pratiquent le surf, qui font la promotion du surf, et j'ai tendance à rappeler à ces personnes qu'eux font la promotion d'une activité à haut risque d'attaque. Et qu'en faisant la promotion d'aller dans l'eau, qu'on réduise le risque d'attaque ou pas, plus ils enverront des gens dans l'eau pratiquer une activité à risque, et plus ils augmenteront le risque d'attaque. Mais le jeu de la démagogie, vous les voyez, elles sont toutes habillées en rose parce que c'est des mamans. Voilà. Et elles ont fait un sitting aussi devant la réserve, devant le complexe de la réserve marine que nous avons vu tout à l'heure. Parce que, bien entendu, les scientifiques, c'est des salauds qui pensent qu'aux subventions et qui préfèrent la vie d'un requin à la vie d'un être humain. Et Jérémy Flores, une fois encore, je reviens sur lui, parce que sa prestance à l'international est vraiment très grande. Il est reconnu un peu partout comme une sommité du surf. Et d'un point de vue biais d'autorité, on peut vraiment pas faire mieux. J'étais au collège avec lui et je parlais de Renaud Daron tout à l'heure qui n'est pas con. Lui, par contre, il est un peu limité. Et je dis, ne vous inquiétez pas, je lui ai déjà dit ce que je pensais. C'est mon avis, c'est mon opinion personnelle. Allez l'écouter sur YouTube. Il est très bon en surf, ça, il n'y a pas à chier. Mais par contre, il joue vraiment beaucoup trop de la. Il joue sur son argument d'autorité et c'est très gênant par rapport à comment il exprime ses idées et pourquoi il les exprime. Là, on peut le voir, voici la situation actuelle à La Réunion. Pendant que certaines personnes font tout pour sécuriser les plages et sauver des vies humaines avec des filets de protection qui ne sont pas maillants, qui ne tuent pas, d'autres extrémistes écologistes, pour des raisons politiques stupides, essayent de saboter ce travail en coupant les mailles des filets. Honte sur ces criminels qui ont du sang sur leurs mains. Pourquoi cette capture d'écran en précis ? Il y a eu des filets qui ont été coupés à Boucan-Canot. Et une photo qui a circulé sur Facebook, qui a été publiée par l'une des personnes qui entretient le filet. Et clairement, on voit que ça a été coupé. Et la politique de communication des propèches à ce moment-là a été de dire que c'était obligatoirement les écologistes, que c'était les associations écologistes. Parce que, voilà, on ne sait pas qui l'a fait, donc prenons l'occasion d'accuser des personnes avec qui on est en conflit d'intérêts. Ça, c'est pas allé plus loin, et je vous parlais tout à l'heure par rapport à l'entreprise de maintenance, par rapport à Patrick Flores, ce qu'il en ressort pour le moment de l'enquête judiciaire et de l'enquête de la police, c'est que c'était pas des écologistes, et qu'au contraire, on a plus tendance à aller vers des personnes qui sont pour la pêche, et pour qui les filets ne sont pas la solution. Mais bon, voilà, c'est pas fini, on ne sait pas où ça va, la police fait encore son travail, laissons-la faire.
Est Smart Drum Lines une barrière de protection insuffisante pour se protéger à des requins, mais le dispositif permettrait leur régulation? La conclusion d'un rapport émis par le comité de suivi du programme Cap Requin après 10 mois d'études en baie de Saint-Paul. Les autorités décident de prolonger et d'étendre le dispositif. 4 nouvelles communes concernées, les Pensalais, 3 bassins, Saint-Leu et Saint-Pierre. On écoute à ce sujet Jean-François Nativel de l'association Océan Prévention Réunion au micro de Julie Pousse.
Ce rapport a montré une évidence, hein, un carré de poisson ne va pas attirer les requins puisque l'océan en lui-même est rempli de stimuli, de poissons qui se mangent entre eux en permanence. Donc ça c'est réglé. Ensuite, le rapport n'a pas dit que ça constituait une barrière, ça ne constituait pas une barrière efficace. Il a dit que ce n'est pas capable, on n'est pas capable de le prouver scientifiquement pour l'instant. Il faut savoir qu'il faut beaucoup de recul pour voir si des dispositifs fonctionnent dans le temps. Donc là, nous ce qu'on dit c'est que de toute façon on est face à une obligation de moyens. Et ces dispositifs ont fait leur preuve en Australie et en Afrique du Sud. Donc pour nous, bien évidemment, qu'il faut poursuivre et déployer le plus rapidement possible ces méthodes de pêche.
En soi, il n'a pas tort. Il faut du temps pour être sûr que ça marche ou ça ne marche pas. Ce qu'il ne dit pas, et c'est ce qui est ressorti cette année, toutefois, les nombreuses visites de requins marqués aux alentours des dispositifs de pêche, parfois appâtés, sans qu'une capture n'ait eu lieu, tendent à montrer que l'efficacité des Smart Drum Line est largement insuffisante pour envisager de les utiliser dans une optique de pêche de protection, telle qu'elle peut être perçue dans leur utilisation au plus proche des plages en Afrique du Sud. Jeremy Cliff et Eric Didley, si mes souvenirs sont bons, 2011, et en Australie, ou telle qu'elle a pu être envisagée au cours des 5 premiers mois du programme Cap Requin, quand les détections sont restées extrêmement faibles et disparaissent suite à une capture de requin bulldog. Et je termine avec l'autre paragraphe. Il apparaît ainsi que le modèle de déploiement des drumlines, tel qu'il est pratiqué ailleurs dans le monde, dans une optique de réduction du risque d'attaque de requins, sur le principe d'une barrière d'engins de pêche mis en œuvre en continu, ne correspond pas au contexte réunionnais. Ce que vous avez vu tout à l'heure, la personne que vous venez de voir, Jean-François Nativel, qui est secrétaire de l'association Océan Prévention Réunion, qui est en fait plutôt le président officieux, il avait dit ça avant que ce paragraphe du projet initial, enfin de la phase 1, du résultat de la phase 1 de Cap Requin nous sorte. Il avait lu ce truc et c'était resté secret entre guillemets. Il a fallu attendre cette année pour que tout sorte et on se rend bien compte qu'ils ont manipulé l'opinion d'une manière complètement détestable parce qu'ils savent qu'en plus de balancer de l'argent pour rien, on n'est vraiment pas sûr de ce que appâter des requins près des côtes peut faire, si ce n'est appâter des requins près des côtes, pour un système de protection clairement défini comme inefficace. Il prenait l'exemple de l'Afrique du Sud et de l'Australie comme quoi ça marchait ou quoi que ce soit. Là encore, en Afrique du Sud et en Australie, ça fait des années qu'ils utilisaient des filets maillants à grande échelle. Donc la biodiversité en a pris un sacré coup, que ce soit les requins, les tortues, les mammifères marins. Ils arrêtent de plus en plus d'utiliser ces choses par des soucis de biodiversité et les drumlines n'ont jamais réellement prouvé leur efficacité dans ces endroits parce que les drumlines ont été mis progressivement en même temps que les filets. Et sauf que pour le moment, c'est surtout l'efficacité des filets qui fonctionne plus que des drumlines. Et en plus de ça, ils m'ont bien entendu parce que la Réunion ne correspond pas, le contexte réunionnais ne correspond pas au contexte africain et au contexte australien. Merci. Et donc, face à la sortie de ce truc qui a été fortement partagé par les médias anti-pêche, eh ben, ils ont organisé une manifestation illégale aux Roches Noires, où tout le monde, il y avait un millier de personnes qui sont venues pour surfer aux Roches Noires. Jean-François Nativel a organisé cette chose, parce que pêcher un requin est un geste citoyen. C'est vraiment pour aller contre pied de la biodiversité, c'est chouette. Et donc, il a incité tous les gens que nous voyons sur cette image à aller dans l'eau et à aller surfer. Donc, mise en danger d'autrui, parce que le risque requin est encore là présent et il n'y avait pas les filets.
Jean-François Nativel, mis en examen pour avoir maintenu une manifestation dimanche dernier sur la plage des Roches Noires et avoir sorti libre, replacé sous le statut de témoin assisté pour mise en danger de la vie d'autrui. On fera le point direct avec vous. Leur instrument. Jean-François Massivel convoqué chez les gendarmes, puis présenté à un juge d'instruction. Le leader de l'association PR a dû s'expliquer et justifier le maintien d'une manifestation interdite dimanche dernier sur la plage des Roches Noires. Il est ressorti libre des locaux. On va faire le point avec Laura Striano dans un instant. D'abord, le reste de la journée avec Fabrice Adrien.
Jean-François Lativelle fait son arrivée au tribunal de Saint-Denis un peu avant 16h cet après-midi. Il vient de passer un peu moins de 5h en garde à vue. La justice lui reproche l'organisation de la manifestation de dimanche au Roche-Noire où des centaines de réunionnais se sont mis à dos alors que c'était interdit. Ce matin, quelques minutes avant sa convocation chez les gendarmes, il déclare assumer ses responsabilités.
Je vous rappelle que ce qui a motivé ce rassemblement, c'est qu'on est face à un État qui refuse d'ouvrir la porte des solutions, de bouger d'un millimètre sur la réserve, malgré les morts. Il continue de protéger et d'élever les requins bulldog. Et lorsque les lois sont injustes, on a le droit de ne pas être d'accord.
Jean-François Nativelle n'est pas seul dans le combat qu'il mène. Dès son arrivée à la gendarmerie de l'étang Saint-Paul, il est soutenu par une vingtaine de sympathisants.
Je me permets d'arrêter là, il n'y a pas... Bah, toujours la même rhétorique. Là, on vient. Lui le dit bien mieux que moi. C'est l'État ne fait pas assez d'efforts. On élève des requins bulldogs dans un parc à jouer. C'est son point de vue. Et parce que lui, il a vécu. C'est un champion de bodyboard. La communauté dans laquelle il vient, il est très impliqué dedans. C'était des passionnés. Et malheureusement, ils ont des arguments passionnés. Et ça les conduit à faire à ne pas voir certaines choses, c'est que pour le moment il y a presque 4 millions d'euros qui ont été investis pour régler de manière par la pêche, par les filets, par le reste, la crise requin. L'État investit de l'argent et l'État est beaucoup plus du côté des pro-pêches, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes pro-pêches qui sont devenues qui sont arrivées dans les institutions publiques, et même des gens qui sont plus d'accord avec leurs idées d'un point de vue écologique. On est vraiment dans un discours démagogique, enfin démagogue, et qui n'a pas de réalité en soi.
Économique.
Même pas économique, parce qu'en termes économiques, le surf, c'était pas, ça allait se casser la gueule à un moment donné. Il y avait trop de personnes qui surfaient, il y avait trop d'écoles, pas assez de plages pour aller surfer. C'est pour ça que tout le monde commençait à surfer à des endroits où il faut aller. C'était dangereux de surfer à des heures où il y avait personne, donc des heures dangereuses pour les attaques. Ça, c'est dans les années 2000, on pourra en discuter après, mais c'est vrai que l'évolution du surf à La Réunion montre bien un problème déjà de base dans cette économie. Si elle s'est cassée la gueule avec les attaques, c'est parce qu'elle était, c'est pas stable déjà de base.
Je suis à l'heure, hein.
Oui, merci. Alors je vais pas revenir là-dessus. C'est la réserve naturelle marine de La Réunion, les scientifiques et les décisionnaires qui ne veulent pas participer à des votes qui sont imposés et qui ne sont pas de l'ordre du débat. Là, toujours pareil, puisqu'il n'y a jamais eu d'estimation du nombre de requins, bulldogs et tigres à La Réunion. Il est impossible de connaître la taille ni la tendance évolutive actuelle des requins. J'avais mis cette diapo parce que l'un des arguments principaux des pro-pêches, c'est qu'il y a une surpopulation de requins, sauf que personne n'est capable de dire actuellement exactement d'estimer la taille de ces deux populations de tigres et de bulldogs. Et je vous avais parlé de la désinformation qui peut être faite du côté écologiste. Je me suis... Sûrement par le fait que moi-même je suis plus de ce groupe ou quoi que ce soit, il y a sûrement des exemples que j'ai ratés et donc j'en suis vraiment désolé. Mais celui que j'ai retenu et qui moi m'avait particulièrement énervé sur les réseaux écologistes, c'était cette histoire d'une baleine qu'on avait, parce qu'à La Réunion il y a les baleines à bosse qui viennent tous les ans, et cette baleine a été observée a traîné une bouée derrière elle qui était accrochée à sa queue. Elle n'était pas en danger. L'association Globis, qui est une association qui s'occupe des cétacés de ce côté-là, de l'océan Indien, a dit qu'elle n'était pas en danger. Et les écologistes, principalement Sea Shepherd, ont dit que c'était une bouée de caproquin et qu'en fait, les bouées de caproquin mettaient en danger la vie de nos grands cétacés. Sauf que là, ça se voit peut-être plutôt bien, mais c'est pas les mêmes bouées. Et en fait, c'est une bouée de pêche taïwanaise. Et oui. Et donc...
Pourquoi il est marqué caproquin sur la bouée là?
Parce que la bouée de Soum, c'est en exemple, c'était pour montrer.
Ah d'accord, c'est la roue, en fait, c'est une bouée, c'est la roue, c'est le taïwanais.
Oui, voilà.
D'accord.
Et donc, ça a été complètement stupide de faire ça parce que les médias sont quand même beaucoup plus pro-pêches, qu'ils soient sur internet ou que ce soit les médias dits classiques. Ils sont quand même beaucoup plus pro-pêches et donc, ils se sont juste tiré une balle dans le pied en faisant ça. C'était stupide. c'était stupide et ça montre que la désinformation peut très bien servir les uns et desservir les autres selon qui l'a fait et pourquoi il l'a fait. Il y a sûrement d'autres, je le répète, il y a sûrement d'autres exemples et je suis désolé, par biais de confirmation, j'ai dû en oublier certaines, mais heureusement j'ai réussi à retenir celle-ci, donc si vous avez d'autres exemples à me partager, je serai très content. Pour conclure, c'est le bordel. C'est les deux dernières vidéos qu'on vient de voir, ça s'est passé cette semaine, ou la semaine dernière, enfin ça s'est passé la semaine dernière et cette semaine, c'est encore présent, c'est encore ancré, il n'y a pas de solution réelle, concrète, de consensus qui peut être fait pour le moment entre les différents acteurs. Et pour le moment, ça risque de ne pas bouger. Et je terminerai par Arnold Jacou, qui est un sociologue qui a été mandaté par l'État lorsqu'ils ont fait l'audit de la crise requin en 2015, si mes souvenirs sont bons, ou 2013 ou 2015, je ne sais plus exactement. Et son point de vue sur la crise requin, je vous invite à aller voir son passage avec Jean-François Nativel et Jean-Bernard Galvez sur Radio Réunion Première, et je trouve plein de sens. Si je ne me trompe pas de bouton.
Très bien.
Ah. Oui, mais ça s'est pas lancé.
Ah, c'est pas fini.
Attends, je
comment vous voyez les choses aujourd'hui? Est-ce que c'est un très quoi que ce soit finalement, ou est-ce que c'est quelque chose de plus?
Attendez, d'abord je veux dire que moi j'ai réagi avec ma sensibilité, comme tout le monde j'imagine, avant de pouvoir prendre du recul, essayer de réfléchir un peu plus posément aux événements. Et ma sensibilité me dit que tout ça est affreux. Bon, et à la réflexion, quand, lorsque des groupes opposés se tapent dessus et s'insultent et s'invectivent, ça veut dire, très probablement, c'est le symptôme du fait que les décisions qui ont été prises n'étaient peut-être pas prises dans les conditions les plus propres à permettre la réalisation d'un consensus. Et donc, en ce qui me concerne, je préconise pour la suite, si elle suit, c'est qu'avant de prendre n'importe quelle décision dans un rapport de force comme ça, et a quelquefois été le cas, ce que j'ai vu dans le temps passé, on accepte que les personnes concernées, les leaders concernés, se rencontrent régulièrement, pas une table ronde une fois, mais se rencontrent régulièrement pour élaborer ce qui est le mieux pour toute la réunion et pour la réunion plongée dans un environnement complexe et les réunionnais qui sont les passionnés des sports.
Certains prédateurs. Il y a 6 minutes de vidéo. Mmh. Voilà le temps. Après, vous pouvez la vidéo est accès libre sur YouTube. Vous tapez Arnold Jacou, J-A-C-C-O-U-D. Et vous avez, je crois, 38 minutes d'interview avec les deux autres intervenants. Jean-Bernard Galvez, avec qui je travaille sur le côté anti-pêche. Et bien entendu, Jean-François Nativel, que nous avons pu voir. Cette interview a été faite l'année dernière, en 2016, en août 2016, après une des attaques. Et donc, cette fois-ci, je vous remercie beaucoup de votre attention. Et le palpitant des Morelles. Et donc, pour cette seconde partie, si vous avez des questions...